RCF.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans une nouvelle émission, le sport au cœur de la foi. Avec cette semaine, un plateau particulier et des invités au niveau international, puisque j'ai l'honneur d'accueillir Couli Dieng, qui est sénégalais et qui vit à Grenoble et qui est responsable de l'équipe sport et foi régionale de foot Rhône-Alpes. Bonjour Couli.
Bonjour Joël.
Et aussi on accueille Steve Jones qui est gallois, qui vit à côté de Swansea, qui est aumônier chrétien d'une équipe de rugby dans le handisport et qui a été aumônier aux Jeux Olympiques de Londres en 2012 entre autres. Bonjour Steve.
Merci Joël, merci de me recevoir en Bretagne.
Avec plaisir. Et en dernier invité, un Espagnol, Miguel Canovas, qui a été danseur de rock'n'roll acrobatique et qui a eu un niveau international. Bonjour Miguel.
Bonjour à tous, bonjour Joël, merci pour ton invitation également ici à Rennes.
J'ai l'honneur et le privilège de vous connaître chacun. Vous êtes là dans le cadre d'un week-end spécial à Rennes pour une formation à l'aumônerie du sport. Alors, l'aumônerie, c'est quelque chose dont on parle régulièrement dans cette émission, avec aussi Étienne Pépin, le directeur de RCF Alpha, qui a eu l'occasion de m'interviewer à mon retour de Rio aussi. Et donc ma première question va se tourner vers notre aumônier professionnel qui nous vient du Pays de Galles, Steve Jones. D'abord, quelle est votre connexion avec la France pour parler aussi bien le français en tant que gallois?
Quand j'étais plus jeune, Joël, quand j'étais étudiant, j'ai fait des études de langues étrangères et parmi elles, c'était le français. Faisant partie de mes études, j'ai dû passer une année universitaire en France et j'ai choisi d'étudier à Lyon. J'ai toujours adoré votre langue. C'est très, très joli comme langue. Et puis plus tard, quand je suis devenu pasteur chrétien, pendant ma période de formation, j'ai dû faire quelques stages en France avec des églises baptistes en Bretagne, deux fois avec l'église baptiste Saint-Malo et la troisième fois en centre-ville à Paris.
On comprend pourquoi vous parlez très très bien français. Je m'aventurerai pas à parler gallois aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'un aumônier du sport, Steve, notamment dans la culture anglaise, comment ça se passe?
Normalement, un aumônier dans le domaine des sportifs, c'est un chrétien, un croyant mature qui se place dans le monde du sport pour voyager avec ceux qui pratiquent leur sport, pour être là pour prodiguer un soin pastoral, un soin spirituel pour eux, qu'ils soient croyants ou non. Bien sûr, pour ceux qui sont des joueurs qui ont une foi chrétienne, de leur aider par moyen d'études bibliques, de prier avec eux, pour eux. Mais mon cas actuel dans le Pays de Galles, beaucoup des joueurs de mon équipe ne sont pas des chrétiens, ne sont pas croyants. Donc c'est juste une présence pastorale, quelqu'un qui porte une écoute compassionnelle, quelqu'un qui est là pour leur donner du temps pas pressé. Alors je passe beaucoup de temps avec des joueurs, les entraîneurs, leur famille, en écoutant et être là afin que quand il y a des difficultés, des problèmes dans leur vie, parce que les sportifs, ils mènent la vie comme nous quand même. Et la vie, ça se passe pour eux avec tous les joies, tous les accidents, toutes les tragédies de vie. Et comme pasteur, je suis là en tant que présence consistante d'être là pour soutenir au niveau pastoral. Je te donne un exemple plus récent. Un de nos joueurs, son père, il s'est décédé, il s'est pendu. C'est une grande tragédie pour la famille, ça avoir bien impacté d'une façon mauvaise sur ce joueur et toute la famille. Et l'équipe, là où je suis aumônier, les Ospreys, ils ont des entraîneurs pour tout, entraîneurs pour l'attaque, défense, pour entraîneurs de vision horizontale, mais ils n'ont pas d'entraîneur, ce qu'ils appellent entraîneur de vie. Quelqu'un qui se spécialise dans le soutien des sportifs à travers toutes les choses qui ont lieu dans la vie.
Du coup, donc aumônier aussi, alors vous avez dit que c'était chrétien, mais il n'y a pas que les aumôniers chrétiens, c'est pour toutes les confessions. Je rappelle qu'on est dans le sport au cœur de la foi, avec une émission spéciale, avec un plateau international. Je vais me tourner vers Couli. Quel regard vous portez sur l'aumônerie du sport? Vous avez aussi l'occasion d'aller en Angleterre. Est-ce que vous avez deux enfants qui sont footballeurs professionnels dans le sport de haut niveau? Quel est votre regard sur cette approche qui nous a été présentée, justement, d'avoir une écoute, un peu cette approche holistique, c'est-à-dire de prendre la dimension spirituelle de l'individu?
Je dois reconnaître qu'au départ, j'ai découvert l'aumônerie sportive par hasard. Donc, je suis d'origine musulmane. Donc, lorsque j'ai découvert l'évangile, j'ai été très impliqué dans une église à Grenoble. Mes enfants sont arrivés, j'étais à fond dans tous les coups. Petit à petit, les clubs de foot sont venus frapper à notre maison, alors que nous, on avait mis les enfants à la musique, pour faire comme toutes les autres familles. Mais il se trouve qu'ils n'avaient pas de don pour la musique, mais ils avaient des dons pour le sport. Lorsque l'on a eu 6 enfants, j'étais ancien, avec beaucoup de responsabilités, je travaillais parallèlement. À un moment, j'ai pris conscience qu'il y a un temps pour tout, que l'heure était venue pour moi de prendre du temps pour m'occuper de ma famille. J'ai dû déposer ma charge d'ancien, et puis j'ai pris du temps pour mes enfants et je les ai accompagnés donc pendant les matchs, les entraînements. Ils ont voyagé un peu partout en France et à un moment j'ai pris conscience que ils avaient le don de jouer au foot mais le foot les éloignait de l'église. Ils vivaient des temps forts dans le monde du foot mais déconnectés de la vie de l'église et c'est là que j'ai été amené à être en contact avec des personnes de sport et foi. Et chaque vacances scolaires, j'allais participer à des activités. Et aujourd'hui, donc, je m'occupe de cette section régionale de sport et foi, dans le but aussi d'accompagner les jeunes chrétiens de la région qui ont le don de jouer au foot. Pas qu'ils enterrent leur don, pas qu'ils aillent dans le monde coupé de la vie de l'église, mais les accompagner pour faire le lien. Parce que le foot, le sport est aussi une terre de mission. Celui qui a un don là-bas, il est un envoyé privilégié. Et celui-là, c'est important de l'accompagner pour le préserver, mais aussi pour qu'il soit un relais pour nous permettre de partager notre foi dans ce milieu.
Donc c'est par expérience personnel que vous êtes rendu compte d'un besoin spirituel aussi chez vos enfants et vous avez expérimenté l'accompagnement des aumôniers qui existent en France alors qui cheminent plutôt individuellement et puis après quand un de vos fils est parti en Angleterre vous avez découvert ça. On va se tourner maintenant vers Miguel qui lui c'est autre chose qu'il était dans le rock'n'roll acrobatique sans être chrétien et justement comment on gère la pression dans un sport comme ça, il y a de la compétition. Comment on se construit quand on n'a pas la foi dans sa vie?
Eh bien, c'est un peu particulier parce que c'est vrai, c'est une dimension, une notion qui ne fait pas partie de notre vie. Et donc, particulièrement le sport était pour moi était devenu une raison de vivre, une raison d'être. Le sport faisait partie intégrante de ma vie et même je peux dire que je ne vivais que pour ça. J'avais commencé des petits boulots au McDonald's, etc. pour subvenir aux dépenses importantes du sport. Et donc la pression était soulignée essentiellement sur le fait que on plaçait sans cesse la barre de plus en plus haut. Ça veut dire qu'on se contentait jamais. Eh bien, de ce qu'on avait. On en voulait toujours plus, on voulait toujours être meilleur, être supérieur aux autres, même se dépasser soi-même, se prouver des choses à soi-même, à un tel point qu'on arrivait à un moment donné, où inconsciemment on ne se rend pas compte, mais il y a des conséquences à ce type d'état d'esprit qui se mettait en place dans ce milieu de compétiteurs.
Quelles sont les conséquences alors ?
Alors, les conséquences qui se sont révélées assez rapidement me concernant, c'était un problème identitaire. Un problème identitaire, c'est-à-dire que à un moment donné, eh bien, j'oubliais qui j'étais vraiment, et puis j'étais vraiment affamé de victoire à n'importe quel prix. À n'importe quel prix, eh bien, qui que ce soit qui pouvait être à mes côtés, je ne le voyais pas comme une personne qui était normalement constituée comme moi, mais une personne que je devais écraser à tout prix.
Et ça, c'était conditionné par les entraîneurs, par le staff, ou c'était vous-même qui vous mettiez cette pression tout seul ?
Je pense qu'au départ, il y a un petit peu, c'est une dynamique d'ensemble qui est là, qui se met en place. Hein. On s'entraîne avec d'autres compétiteurs, donc déjà il y a déjà une compétition même au sein même de l'entraînement quotidien. Sans être sur des plateaux de compétition, vous êtes déjà en compétition. Et donc après, effectivement, il y a les entraîneurs, eh bien, qui vous conduisent à vous dire, ben voilà, tu es compétiteur. Et donc c'est un conditionnement psychologique qu'après on auto-alimente soi-même. Hein.
Et qu'est-ce que ça a déclenché chez vous comme trait de caractère que aujourd'hui avec le recul vous dites je suis devenu comme ça, il fallait que ça change.
Je me suis rendu compte des conséquences de ce que ça venait faire comme effet en moi après avoir arrêté le sport. J'ai découvert avec le temps que j'étais très perfectionniste, que j'étais jamais content de ce que je faisais. Je pouvais réaliser n'importe quelle tâche dans la journée, j'étais tout le temps insatisfait. Et tout le temps, j'allais chercher à pouvoir me dire, ben non, tu peux faire mieux. Et donc, c'était vraiment particulièrement ce perfectionnisme-là qui ressortait, mais également aussi de la violence. C'est-à-dire que lorsque je n'arrivais pas à obtenir le niveau, la barre que je m'étais fixée, eh bien, je devenais violent.
Envers les autres ?
Envers les autres, mais aussi envers moi-même, inconsciemment. Je devenais très exigeant envers moi-même, mais très exigeant également envers les autres. Donc, ça pouvait se traduire par des paroles méchantes. Bon, je suis gentil, quoi, quand je dis des paroles méchantes, hein, c'était vraiment envoyé dans le but de faire mal. Et puis également, ça se traduisait par des comportements physiques violents. Et donc tout ça, ça a été vraiment le fruit d'un état d'esprit qui s'est forgé au fil des années. Hein, voilà, parce que j'étais sportif pendant plus de 20 ans.
D'accord. Et est-ce que justement, par rapport à ce qu'on parlait de l'aumônerie, est-ce qu'une aide extérieure, comme un aumônier, quelqu'un qui est là pour écouter, pour discuter, vous aurait aidé, et peut-être dans votre recherche spirituelle aussi, est-ce que ça aurait été quelque chose d'important ?
Alors, pour ma part, dans le milieu de la danse acrobatique, l'aumônerie n'existait pas. Et c'est vrai que cet aspect spirituel faisait vraiment partie très 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 lointaine de ma vie, du quotidien. Ça, c'est quelque chose, peut-être, si ça aurait été présent, je ne sais pas si véritablement j'aurais eu le cœur ouvert à m'intéresser à ça. Je suis incapable de vous le dire, dans le sens où j'avais comme objectif quotidien de toujours vouloir aller plus loin dans les performances. Donc je ne sais pas si l'aumônerie, si elle avait été présente, je ne suis pas capable de dire si j'étais prêt à avoir dans mon cœur véritablement un cœur ouvert à recevoir ça.
Steve, est-ce que vous rencontrez des cas comme ça, des gens qui sont pas croyants, mais qui ont cette colère qu'ils voient, et comment on gère ça ? Est-ce que vous avez vu des gens qui, juste une présence de l'écoute, ça aide ces personnes à changer ?
Oui, moi j'ai trouvé des fois des joueurs qui, je sais pas si c'est un mot français en fait, mais ils internalisaient.
Ils intériorisent.
Leur frustration, et ça se manifeste en expression violente. Des fois, juste ayant l'occasion de parler avec quelqu'un qui ne fait pas de l'équipe de l'entraînement, qui est indépendant, confidentiel, de petit à petit, le joueur commence à sourire et de parler des choses peut-être qu'il n'a jamais mentionné à quelqu'un d'autre. Et ça, c'est très important pour chaque individu humain de trouver quelqu'un auquel il puisse partager les batailles du cœur, quoi.
Merci beaucoup, Kouli, Miguel et Steve, d'avoir répondu à mes questions. C'était le sport au cœur de la foi. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour prolonger et on ira un petit peu en profondeur. Miguel, aujourd'hui on vous voit, vous êtes calme, vous êtes posé. On va voir qu'est-ce qui vous a transformé de l'intérieur, ce qui vous a changé. Couli, vous avez parlé que vous étiez musulman avant. On reviendra là-dessus la semaine prochaine. Je vous dis à très bientôt sur les ondes de RCF Alpha.
RCF.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans une nouvelle émission, le sport au cœur de la foi. Avec la suite de notre émission avec autour de l'aumônerie chrétienne du sport et du concept d'aumônerie générale dans le sport, toujours avec mes invités de la semaine dernière qui sont revenus, donc Couli Dieng qui vient de Grenoble, d'origine qui est sénégalais et qui est responsable d'une équipe de football chrétienne. Bonjour Couli.
Bonjour Joël.
Miguel Canovas, danseur de rock'n'roll, qui ancien danseur de rock'n'roll, qui a eu un niveau international, qui habite à Lyon. Bonjour Miguel.
Bonjour Joël.
Et puis notre invité d'honneur, Steve Jones, gallois, amoureux quand même de la France, qui nous a fait partager son beau français et qui est encore avec nous. Bonjour Steve.
Bonjour Joël et bonjour à tous et à toutes.
Alors Steve, j'aimerais revenir par rapport à l'aumônerie. Comment vous en êtes arrivé à devenir aumônier, vous qui étiez et qui êtes pasteur d'une église évangélique baptiste? Comment on passe aumônier?
C'était il y a 8 ans, l'équipe professionnelle de rugby dans notre région Osprey, ils ont subi une tragédie. Un des joueurs de leur académie, il avait que 18 ans, il s'est décédé en plein match. Ça a complètement bouleversé l'équipe, ses collègues, la région. Ils se sont rendus compte tout d'un coup qu'ils ont besoin d'un pasteur, d'un aumônier, d'un coach de vie pour les aider pendant cette période très, très difficile. Ils m'ont approché, demandé si je peux aider. Et comme pasteur, j'étais très heureux de m'intégrer là dans leur système là. Et de partager du temps avec la famille, avec les collègues, et toujours avec quelques-uns des collègues qui étaient avec ce jeune joueur. Je l'accompagne toujours, parce que c'est une grande tragédie pour beaucoup qui étaient impliqués à ce temps-là.
Et en Angleterre, ça existe depuis combien de temps, l'aumônerie en milieu sportif? Parce que c'est un concept en France qui nous dépasse un peu, hein, pour ceux qui nous écoutent. L'aumônerie du sport, on connaît l'aumônerie des hôpitaux, des prisons, pour les militaires. Mais en Angleterre,
dans
c'est
dans le domaine du sport, chez nous, ça a commencé il y a, je dirais, 25, presque 30 ans, avec un pasteur baptiste qui s'appelait John Boyers, qui est toujours impliqué. Il est maintenant aumônier auprès de Manchester United. Ça a commencé avec lui et avec des années, ça a grandi afin que maintenant, nous sommes 425 aumôniers dans le monde sportif en Grande-Bretagne.
Je rappelle que vous êtes dans le sport au cœur de la foi avec, pour cette émission, un plateau exceptionnel avec trois invités, trois acteurs du monde du sport. Alors aussi, Steve, donc vous nous parlez de l'aumônerie du sport en Angleterre. On sait bien que l'Angleterre, vous avez une laïcité particulière et en France, nous, la laïcité, on la gère différemment. Mais est-ce que c'est possible de vivre une aumônerie dans un pays comme la France ou dans d'autres pays que l'Angleterre, où il n'y a pas la reine qui est la seconde de Dieu?
Ça vous intéresserait peut-être de découvrir que ma carrière dans l'aumônerie du sport a commencé avec une équipe française.
C'était, ah bon, il y
a,
ça
il y a 8 ans, le tournoi, la Coupe du monde du rugby des moins de 20 ans avait lieu dans mon pays. Et les organisateurs du tournoi, ils ont demandé une équipe d'aumôniers pour attribuer à chaque des équipes qui participaient. Et l'équipe française, il logeait, il s'était basé à Swansea. Alors les organisateurs, ils cherchaient un aumônier britannique qui parlait
français.
Le français, qui était dans la région de Swansea. Il n'y en a pas beaucoup. Moi, j'étais là, ils m'ont demandé est-ce que ça vous intéresserait d'être impliqué là. J'ai dit, well, tout d'abord, laisse-moi rencontrer l'entraîneur là, le chef de l'équipe, chef de mission quoi. À cette époque-là, c'était Philippe Sella, le centre, le 13 ou 12 pour les Bleus. Et je suis le rencontré, il m'a demandé qu'est-ce que c'est ce rôle d'aumônier. J'ai pris quelques moments de temps avec lui et l'entraîneur Philippe Boer. Et j'ai expliqué, je suis là pour être une présence à l'écoute s'il y a quelque chose qui va pas bien pour l'équipe pendant leur temps à Swansea. Et il m'a accueilli avec très très chaleureusement, m'a reçu à l'intérieur de l'équipe. Et en fait, quand il y avait dans le premier match des Bleus, un des joueurs, il a subi une blessure très grave, une hyperextension du cou. On a dû l'accompagner à l'hôpital et partager plusieurs heures à l'hôpital là. Et le joueur, il était angoissé. L'entraîneur et le médecin, ils ont dû rentrer à la stade, bien sûr, parce que le match continuait. Et moi j'ai offert de rester là avec le joueur, de parler avec lui. Et on est arrivé à un point où le joueur, il était vraiment angoissé et je lui ai offert de prier pour lui. Même quand il n'était pas croyant, il n'avait pas de foi, mais je lui ai offert et il a bien apprécié. J'ai prié pour lui. Et après ça, dans les jours qui a suivi, les entraîneurs, ils ont exprimé leur reconnaissance de ce que j'ai fait et ils ont commencé à apprendre ce que c'est l'aumônerie du sport, vraiment.
Donc si la Fédération française de rugby nous écoute, il y a un appel qui est lancé, hein. Steve est disponible, mais il est en train de former des gens pour justement être envoyés et à disposition du monde du sport. Et c'est vraiment important de retenir que c'est pour tout le monde, même pour les non-croyants. Miguel, je me retourne vers vous par rapport à cette question. Vous avez partagé que le sport avait vraiment une place primordiale dans votre vie. Votre vie tournait autour du sport. Mmh. Et à un moment, vous avez dit la semaine dernière que vous avez arrêté le sport. Pourquoi ? Et qu'est-ce qui se passe quand on arrête le sport ? Est-ce que c'est dur ? Parce qu'on parle souvent des dépressions, des moments difficiles. Mmh. Comment on gère ça ?
Alors moi, j'ai arrêté le sport après un peu plus de 22 ans de pratique. Et je l'ai arrêté simplement parce qu'au bout d'un moment, je me reconnaissais plus dans l'état d'esprit qui y avait. Parce qu'après tout, c'est un état d'esprit qui me semblait être assez malsain. Et donc, effectivement, j'ai pris la décision d'arrêter sans trop vraiment réfléchir à l'après. Et en fait, je rejoins un petit peu Steve là-dessus, où effectivement, on ne prépare pas assez les joueurs qui sont au devant de la scène, à qui on donne une place importante, où on leur dit voilà, bah t'es un très bon sportif, etc. Mais on leur dit pas qu'un jour ça va s'arrêter. Et même s'ils le savent, même si on le sait que ça va s'arrêter, eh ben on n'est pas prêt en fait à ça. Donc moi quand j'ai arrêté le rock acrobatique, eh bien j'ai senti comme un espèce de précipice après. Où après je voyais plus d'intérêt à la vie. Je trouvais plus vraiment quelque chose qui pouvait me donner l'envie de me fixer d'autres objectifs. Et donc, eh bien là, c'est vrai que la foi s'est présentée tout naturellement dans le cadre de mon travail par la suite. Et voilà ce qui s'est passé quand même, je voudrais quand même le signaler. On parlait de personnes qui ont des idées assez noires, tout ça. Et moi, c'est vrai, c'est dans cet état d'esprit-là que je me suis retrouvé à un moment donné, où j'ai vraiment trouvé que le suicide allait être la solution à ce précipice. Et voilà, donc j'ai commencé à mûrir cette idée de mort, cette idée noire qui venait en moi, où je me trouvais quelqu'un qui était plus utile à la société où je me trouvais vraiment. Je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire maintenant? Il y a rien qui me passionnait. Ma passion était vraiment le rock acrobatique, la danse. Et donc là, voilà, des idées noires qui s'installaient, des idées qui plus tard allaient me conduire vraiment à trouver le suicide comme la solution à mon problème.
Et alors, qu'est-ce qui vous êtes là aujourd'hui? Qu'est-ce qui a permis que vous n'êtes pas suicidé? Qu'est-ce qui a changé votre vision des choses?
Donc aujourd'hui, j'ai par grâce, hein, vraiment, je suis ici parce qu'au moment où j'ai voulu passer à l'acte, eh bien, j'ai vraiment on m'avait parlé déjà un petit peu de l'évangile dans le cadre de mon travail. J'avais fréquenté une église chrétienne évangélique. On m'avait parlé un petit peu du salut, de Jésus-Christ. On m'avait parlé de choses spirituelles, des choses qui faisaient vraiment pas partie de mon environnement. Mais malgré tout, j'avais cette colère qui persistait en moi. J'avais cette haine qui persistait en moi. C'est tout le temps cette envie de vouloir écraser les autres. Et je me ménageais pas moi-même. Et donc c'est vraiment à mon domicile, à un moment donné, où j'ai voulu mettre fin à mes jours, où j'ai vraiment senti l'amour de Dieu rentrer dans mon cœur. J'ai senti, quelques minutes avant, j'étais en train de rendre responsable Dieu de ce qui m'arrivait, en train de l'insulter. Et à un moment donné, j'ai vraiment senti cet amour vraiment super puissant rentrer en moi et me doucher de la tête aux pieds. Et là, j'ai été convaincu en un instant, eh bien que Dieu existait pour de vrai, et que c'était pas juste un concept spirituel pour bercer les gens, leur faire du bien comme ça pendant un temps, mais qu'il y avait vraiment une valeur ici terrienne, mais aussi éternelle.
Vous êtes toujours dans le sport au cœur de la foi. Je vais me tourner vers Steve. Est-ce que justement ça vous est arrivé de rencontrer des cas comme ça, de personnes, vous avez partagé d'une expérience qui se suicide ou qui veut se suicider? Comment on gère ça?
Oui, je connais des joueurs qui ont subi des blessures, qui ont mis fin à leur carrière. Et ils sont entrés dans ils sont devenus très très déprimés. Alors j'ai appris la leçon moi-même de préparer les joueurs quand ils ne sont pas blessés en avance. Vous n'êtes qu'une blessure avant la fin de ta carrière, et je parle de essayer d'apporter un équilibre à leur vie. Pour moi, j'adore le sport, et j'explique aux athlètes, aux joueurs chez nous que le sport c'est important, mais en fin de compte, est-ce que c'est la chose la plus importante dans la vie? Je parle avec eux un avec un. Des fois, en petit groupe, qu'est-ce que c'est des choses qui sont vraiment importantes dans la vie? Est-ce qu'il y a de l'équilibre dans votre vie? Est-ce que le sport est devenu peut-être idole? Des questions comme ça. Alors, de démarrer des conversations, des dialogues comme ça avec des sportifs, c'est très important avant que la fin arrive, la fin de leur carrière. Parce que c'est la retraite, c'est souvent le catalyse qui peut démarrer une dépression.
Je me tourne vers Couli. Oui. Qu'est-ce que le service d'aumônerie a apporté à vos enfants? Est-ce que ça les a aidés? Comment ils cheminent eux personnellement? Comment ça vous encourage en tant que famille aussi de laisser ces enfants partir loin et si jeunes dans des centres de formation professionnelle?
Bon, c'est avant tout un acte de foi, hein, de les laisser partir. La maman, chaque départ d'un enfant, c'est une déchirure terrible. Donc, lorsque j'ai visité mon fils, là, qui joue en troisième division, j'ai eu l'occasion de rencontrer deux aumôniers anglais à Oldham et puis à Bradford. Donc, ce sont des pasteurs comme Steve. À Oldham, donc, à l'origine, c'était quelqu'un de passionné qui était abonné au stade. Et un jour, le club a été sollicité pour avoir un aumônier. Et donc, les responsables du club ont dit, OK, on veut bien un aumônier, mais il faut que ce soit quelqu'un du milieu de nous. Quelqu'un qui soit supporter. Et comme lui, il était passeur et qu'il était déjà vraiment parmi les fans du club, il a été choisi et ça se passe très bien. J'ai eu l'occasion de le rencontrer à plusieurs reprises. Je suis allé dans son église. J'ai même été à une réunion de prière. J'ai vu que les Anglais, ils savaient faire une réunion de prière en 30 minutes. J'étais impressionné.
Et c'est aussi important, l'aumônier est aussi là pour les familles, hein, Steve. On disait c'est pas que pour les joueurs, donc vous rencontrez des personnes comme Couli qui sont parents et qui se soucient aussi de leur enfant.
Oui, bien sûr, c'est le rôle, ce n'est pas que seulement pour les joueurs, hein, pour la famille, tout ça. Et maintenant dans mon rôle actuel avec l'équipe handisport pour le rugby en fauteuil roulant, cette dimension avec les familles et ceux qui sont ceux qui soutiennent ceux qui ont subi un accident de route ou quelque chose comme ça, je dépense beaucoup de temps maintenant avec les familles aussitôt que les joueurs.
Oui, alors Steve, on va revenir, on va faire une troisième émission avec vous parce que c'est tellement passionnant et riche. Et justement, la semaine prochaine, on parlera du handisport. Vous allez revenir pour parler de ça et on va aussi parler avec vous, Couli, du sport auprès des migrants. On aura l'occasion d'aborder tout ça. C'était le sport au cœur de la foi. Je vous dis à très bientôt sur les ondes de RCF Alpha.
RCF.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans une nouvelle émission, le sport au cœur de la foi. Troisième et dernière émission autour de l'aumônerie du sport avec mes invités, donc Couli Dieng qui est de Grenoble. Bonjour Couli.
Bonjour Joël.
Et Steve Jones, le Gallois, qui a passé plusieurs jours à Rennes. Bonjour Steve.
Bonjour encore une fois Joël.
Vous êtes des acteurs du monde du sport, on a pu le voir dans les émissions précédentes. J'encourage les auditeurs qui n'ont pas pu suivre à télécharger les podcasts. Ce que j'aimerais voir avec vous Steve, c'est que vous avez commencé dans le sport valide, mais il y a aussi le sport handisport. Comment vous en êtes arrivé au handisport et comment ça se passe l'aumônerie auprès des personnes handicapées?
Bon, après quelques années en serviteur dans le monde de sport valide, je me suis réfléchi un petit peu que le monde du sport, juste comme le royaume de Dieu en fait, c'est beaucoup plus grand que le sport pour des gens valides. Et j'ai rencontré quelques rugbymen qui ont subi un accident de cou en jouant la version valide du jeu, dans le scrum, c'est quoi en français?
Les mêlées.
Les mêlées. Les mêlées, c'est tombé, ils sont coupé la corde vertébrale. Et j'ai dû voyager avec eux pour leur réhabilitation. Et j'ai découvert qu'il y avait des équipes pour des rugbymen qui jouent en fauteuil roulant, qui étaient aussitôt passionnés de leur sport, qui avaient besoin de quelqu'un de les accompagner dans leur vie, parce que après avoir subi un accident comme ça, on a de grandes questions de questions théologiques en fait, de souffrance, de la souveraineté de Dieu, pourquoi cela
m'arrive.
Donc ça vraiment, c'était quelque chose de l'esprit de Dieu de ma part. Je crois qu'il m'a guidé de donner plus de mon temps dans ce domaine-là, le domaine de l'handisport, non seulement avec le rugby en fauteuil roulant, mais aussi le cécifoot, le football pour ceux qui sont malvoyants. J'ai participé au championnat d'Europe de football pour les malvoyants dans notre pays. Et j'ai découvert là, il y avait des chrétiens qui s'étaient aveugles, qui vraiment avaient besoin de quelqu'un dans les tournois comme ça, de diriger les études bibliques avec eux, ou bien juste de parler de leur vie. Et c'est quelque chose de l'Esprit de Dieu pour moi qui me guide de plus en plus de porter un soutien pastoral et spirituel aux sportifs qui ont des handicaps.
Et quels souvenirs vous gardez des Jeux paralympiques? Vous avez été aumônier à Londres. Quelle anecdote, quels souvenirs vous pouvez nous partager?
Du point de vue pratique, tout d'abord, ça vous inspire hein, de voir les gens avec toute une gamme de handicaps qui performent, qui ont une performance très haute dans leur sport, ça vous touche à cœur de voir une équipe de footballeurs qui sont aveugles, qui marchent dans le village des athlètes, là, la main sur l'épaule de l'autre en se guidant dans les environs du village, ça vous touche au cœur. Et puis de les recevoir dans le centre de prière, le centre de louange, dans le village des athlètes, et de pouvoir animer des études avec eux dans les matériaux, les ressources en braille pour eux, c'est important. Et il m'a frappé vraiment que peut-être l'Église a ignoré un petit peu, a négligé un petit peu les besoins de ceux qui ont des handicaps, et nous chrétiens qui sont impliqués dans le sport, peut-être on a négligé également les besoins des sportifs qui portent des handicaps.
Vous êtes toujours dans le sport au cœur de la foi, et donc on va parler du sport intégration, justement comment aussi intégrer les personnes handicapées à travers le sport, comment aussi en tant que chrétien on peut tendre une main vers ces personnes, être à l'écoute. Vous avez partagé aussi, Steve, comment vous avez été vous-même touché et travaillé, peut-être qu'on aura l'occasion de revenir dessus après, mais je me tourne vers Kouli qui fait du sport intégration avec des migrants, qui a eu l'occasion à Grenoble d'organiser plusieurs matchs. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça s'est mis en place, ce projet, et comment vous vivez ça de l'intérieur?
Il y a donc la pastorale de la métropole de Grenoble avait envoyé un courrier sensibilisant toutes les associations et les églises à la violence dans la ville de Grenoble, la prostitution et les migrants. Et en tant que responsable de Sport et Foi, j'assiste à la pastorale. On a discuté, prié, et puis il y a eu le forum où toutes les œuvres chrétiennes se sont réunies. Et donc, j'avais un stand Sport et Foi. Il y a des gens qui sont venus me voir disant, il y a les migrants, est-ce que vous pouvez proposer quelque chose? Le samedi suivant, je suis allé. Donc, il y avait donc un groupe d'Afghans en majorité et des groupes de Soudanais en majorité et puis d'autres nationalités. Et les Soudanais et les Afghans ne s'entendent pas, en fait. Au départ, quand je suis arrivé, il y avait les Afghans, mais quand ils ont vu que les Soudanais arrivaient, ils n'ont pas voulu venir jouer. Au final, je me suis retrouvé sur le terrain avec une vingtaine de Soudanais. Il y a un Afghan qui est venu, peut-être un Camerounais, un Ivoirien. Et donc, je me suis improvisé et coach. J'avais un peu du matériel de la sélection régionale, mais ils n'avaient pas de chaussures de foot. La semaine suivante, j'ai lancé un appel pour avoir des chaussures. Donc, j'ai pris une dizaine de paires de mes enfants donc, qui traînaient là-bas. Et puis, deux présidents de clubs du voisinage m'ont donné aussi des paires de chaussures. Aujourd'hui, ils sont une trentaine à participer. Ils ont tous des chaussures presque flambant neuves, quoi.
Et donc, on voit, quand on travaille avec un public de migrants, on a toutes les nationalités, toutes les religions différentes, ce qui est aussi votre cas. Vous arrivez du Sénégal, bon, il y a plusieurs années. Le sport a été aussi un moyen d'intégration pour vous en Europe. Vous étiez musulman à l'époque, vous êtes devenu chrétien. Comment tout ça, ça s'est mixé et comment ça a été vécu, cette transition pour vous?
Je dois reconnaître que le foot a été, pour moi, souvent une clé qui ouvre des portes. Je me souviens quand j'ai eu mon bac, en attendant d'aller à l'université, j'avais travaillé l'été dans une entreprise et il y avait un petit tournoi de foot. Ça donnait l'occasion de sympathiser avec beaucoup d'autres personnes. Même dans mon entreprise aujourd'hui, j'ai été embauché chez Merlin Gerin en 90. J'y suis depuis plus de 25 ans. C'est devenu Schneider, Siemens aujourd'hui. Et régulièrement, il y a des parties de foot et c'est toujours des moments de très grande sympathie, quoi.
Et comment vous avez géré cette adaptation aussi, arrivé en Europe? Vous êtes devenu chrétien alors que vous étiez musulman. Comment on gère ça? Votre famille, est-ce que c'est un choix facile? Parce que c'est aussi des réalités qu'on peut avoir, Steve, dans l'aumônerie. Mmh. On peut avoir des gens qui sont d'une confession et qui passent dans une autre, où on est dans le dialogue aussi interreligieux. Comment ça s'est passé pour vous, Kouli? Et puis Steve, peut-être une anecdote dans ce domaine.
Pour moi, donc, quand je suis arrivé en France, j'avais une vingtaine d'années, hein, d'origine musulmane. Donc, très rapidement, j'ai rencontré la femme qui est devenue mon épouse, Muriel, avec qui nous sommes depuis plus de 30 ans. Ça vous laisse deviner mon âge. Et donc, elle était d'origine catholique et sans pratiquer. Elle a eu l'occasion, donc, d'aller dans une église évangélique et à lire la Bible et à se faire baptiser. Ensuite, elle n'arrêtait pas de me parler de sa Bible, d'amener des Africains qui venaient faire une formation biblique. Une année, donc, pour la Saint-Valentin, je lui dis, mais puisque pour toi, il n'y a plus que la Bible qui compte, t'as qu'à m'offrir une Bible. J'étais pour rigoler, quoi. Elle me prend au sérieux, donc elle m'offre une Bible. Elle m'offre aussi un petit évangile de Jean en m'encourageant de commencer par ce livre. Et je le lisais dans le but de trouver des arguments pour contester, pour montrer qui était le chef à la maison. Et juste avant de faire cette lecture, je m'étais dit, je vais d'abord lire le Coran en français. Parce que je suis d'origine musulmane, mais je connaissais pas vraiment ma religion. Je me suis dit, tout ce qui m'est promis sur la religion des autres, je vais voir si je l'ai pas dans ma propre religion. Et j'ai, malgré multiples tentatives, j'allais régulièrement en Allemagne voir mon frère dans un environnement musulman avec 8 heures de voyage en train. 2 mois sur place, j'ai jamais pu avancer. Et donc, suite à cette Saint-Valentin, j'ai été amené donc à ouvrir l'évangile de Jean, à lire. Contrairement au Coran, j'arrivais à le lire. Et chapitre 4, c'est comme s'il y avait un rendez-vous là. Donc c'est comme si Jésus m'attendait là. Et quand il discute avec cette femme au bord du puits, avec cette histoire raciale, moi qui suis un étranger ici, je me suis dit, oulala, il y a une histoire intéressante là. Et j'avais l'impression de m'asseoir, de regarder la scène. Donc la femme qui sort tout son tralala ratio, et Jésus qui ouvre la bouche, qui lui dit, si tu connaissais celui qui te demande à boire, tu lui aurais demandé, il t'aurait donné une eau juste... Je développe pas, mais en gros, il dit à la femme, chaque fois tu viens chercher de l'eau, t'as toujours soif. T'as 5 maris, tu cherches ton bonheur parmi les hommes, tu l'as pas. Moi, j'ai vécu en Allemagne, je vivais en France, mais tout ça, c'était bof. Tous les Africains rêvent de venir ici, j'y suis, mais c'était loin d'étancher ma soif. Donc, suite à ce chapitre-là, je me suis retourné. Je me suis mis à chercher qui était Jésus, et j'ai rencontré celui qui a changé ma vie, quoi. Celui qui m'a donné la plénitude.
Alors Steve, comment on gère ça dans l'aumônerie, ce brassage de population et aussi ce dialogue interreligieux?
Je pense particulièrement aux grands tournois comme les Jeux paralympiques, olympiques, les Jeux Commonwealth. Là, au niveau du service de l'aumônerie, c'est toujours une aumônerie, comment dire, multiconfessionnelle. Donc, il y a des aumôniers chrétiens, des aumôniers musulmans, des aumôniers bouddhistes, tous les grandes foies du monde. Bien sûr, on n'est pas ensemble pour les temps de louange. Chaque foie a un espace de louange et de prière. Mais ça fait le point que on a tout le droit de pratiquer sa foi. Donc, ça a lieu comme ça dans les grands tournois. Mais dans d'autres tournois, je pense aux Coupes du Monde de rugby. Là, j'étais une fois avec une équipe qui n'avait pas de pratiquants chrétiens, mais il avait un pratiquant musulman. Et en dépit que des imams locaux ont été invités de faire partie de l'équipe, ils ne sont pas venus. Donc, on avait une situation, il y avait un musulman pratiquant qui n'avait pas d'imam dans l'équipe aumônier. Et le coach, il m'a demandé si je peux aider. Donc, j'ai dit, donc, bien sûr, comme expression de la grâce commune de Dieu, je prendrai cet individu le vendredi soir à la mosquée. Je l'ai déposé là, j'ai voulu établir qu'il était sauf et sain. Je suis rentré là-bas après la session là. Je suis pas entré dans les mosquées moi-même, mais je suis rentré là-bas après pour le ramener vers l'hôtel de l'équipe. Ça, comme chrétien, ça fait partie de répondre à l'appel de Dieu de montrer la grâce commune aux autres.
C'était le sport au cœur de la foi. Steve a partagé dans le monde du handisport d'être présent en tant qu'aumônier pour tout le monde. Couli a partagé le fait qu'il travaille aussi auprès des migrants. Partager les valeurs fortes de l'évangile sans forcément les annoncer à chaque fois, mais d'être une présence. Je vous remercie vraiment Couli Dieng et Steve Jones d'avoir pris ce temps pour participer aux trois dernières émissions sur le thème de l'aumônerie dans le sport au cœur de la foi. Et je dis à très bientôt à nos auditeurs sur RCF Alpha.